La chronique américaine, c'est Raphaël Jacob qui est avec nous. Salut Raphaël.
Salut Mathieu.
Bon, aujourd'hui, le président Trump va dévoiler son choix attendu pour le nouveau siège vacant à la Cour suprême des États-Unis. Puis on dit qu'il y en avait possiblement quatre.
C'est ce qu'on dit, mais il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Là, on a une liste de quatre juges fédéraux qui siègent présentement à des cours d'appel et qui pourraient recevoir la promotion ultime, devenir juge ou tout au moins être nommé pour devenir juge à la Cour suprême, parce qu'on sait qu'après la nomination, qu'est-ce qui se passe? La longue bataille au Sénat pour la confirmation.
La longue bataille, par contre, c'est 51 votes.
Oui.
Les républicains en ont eu 51.
Exact.
Mais à moins qu'il y ait une défection au sein même du parti.
Exact, parce qu'on n'a pas les lignes de parti qu'on a ici, par exemple. Donc, c'est entièrement possible, surtout que dans le 51 républicain qu'on a présentement, dans le total de 51, tu en as un qui ne siégera presque assurément pas au moment du vote, John McCain, qui est gravement malade. Donc, tu es de façon concrète vraiment à 50 contre 49 et tout ce que ça te prendrait, évidemment, présumant que les 49 démocrates restent unis en bloc, en opposition, ça serait un républicain, ou plutôt une républicaine, parce qu'on a surtout deux sénatrices républicaines dans notre mire du côté démocrate, Mme Murkowski de l'Alaska, Mme Collins du Maine, qui pourraient justement peut-être défecter. De l'autre côté, je te dirais que la grosse bataille à surveiller, ça va être au niveau des démocrates qui représentent des États plus conservateurs.
Oui.
Parce que dans plusieurs cas, en fait, tu as 10 sénateurs et sénatrices démocrates qui représentent des États qui ont voté pour Donald Trump en 2016 et qui doivent briguer un nouveau mandat en 2018 dans le cadre des élections de mi-mandat. Donc, eux, ils vont vraiment être pris entre l'arbre et l'écorce parce que d'un côté, ça va être le choix de soit soutenir le choix du président Trump, donc évidemment qui va déplaire à la base de leur parti, ou se mettre à dos une partie non négligeable de leur électorat plus conservateur à la maison. Donc, des deux côtés, ça va vraiment être, je dirais, les sénateurs plus modérés, les républicains plus modérés et les démocrates plus modérés qui vont tenir entre leurs mains le destin de cette nomination-là qui doit être annoncée à 21h ce soir.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un compromis du président sur, on disait, ça va être quelqu'un d'ultra-conservateur parce qu'il va aller chercher une partie de sa base, et c'est une nomination qu'il faut le dire, aura des répercussions pour des années, des décennies.
Mm-hmm. Absolument, c'est crucial. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'une nomination à la Cour suprême aux États-Unis, ce n'est pas un événement comme les autres et ça n'a rien à voir avec une nomination à la Cour suprême, par exemple, au Canada. Parce que la Cour aux États-Unis, la Cour suprême est très idéologique. Et donc, si on nomme un juge plus conservateur versus un juge plus libéral, surtout lorsqu'on a une Cour qui est aussi divisée que celle qu'on a présentement, ça peut carrément faire balancer les décisions et les orientations sociales du pays, comme tu le mentionnais, non seulement pour des années, mais des décennies.
Là, on parlait de l'avortement, entre autres, qui était au centre, qui pourrait devenir pratiquement illégal dans une vingtaine d'États.
Oui, mais là, il faut faire attention, parce qu'avec...
On est
loin d'être rendu là. Il y a beaucoup, beaucoup de commentateurs médiatiques aux États-Unis qui s'excitent beaucoup depuis les derniers jours, depuis qu'on a appris que le juge canadien, évidemment, avait annoncé sa retraite. Mais il faut faire attention, parce que, sans tomber dans un cours d'histoire, il y a eu plusieurs cas dans les dernières décennies, justement, où les observateurs et les commentateurs de la Cour suprême se disaient c'est sûr et certain que le jugement qui a légalisé l'avortement à l'échelle nationale va être renversé. Et finalement, c'est pas ça qu'on a eu. Donc, il faut faire attention, mais c'est vrai que des enjeux comme l'avortement, comme les armes à feu, comme les droits des homosexuels, une série d'enjeux sociaux extrêmement importants sont vraiment potentiellement là, sur la ligne avec cette nomination-là, encore une fois, qui va être annoncée ce soir.
Bon, les relations étaient bras-dessus entre la Corée du Nord et les États-Unis pendant quelques temps. On est revenu à un ton un peu plus acrimonieux, là.
Assez acrimonieux, merci. On sait que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, était en Asie au courant des derniers jours pour rencontrer des homologues nord-coréens. Évidemment, tout ça, ça fait suite au fameux sommet qu'on avait eu entre Donald Trump et Kim Jong-un le mois dernier. Et là, le ton a remonté d'un cran de façon très subite. Les Nord-Coréens sont sortis avec des déclarations, une série de déclarations assez fracassantes suite aux rencontres qu'ils ont eues avec Mike Pompeo, accusant notamment le gouvernement américain de se comporter comme un gangster, comme des gangsters, parce qu'ils, selon les Nord-Coréens, les Américains pousseraient trop fort et de façon trop unilatérale pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Ce qui est un petit peu spécial dans le contexte où Kim Jong-un s'était justement formellement engagé, signé lors du sommet avec Donald Trump, justement, à dénucléariser. Ça te montre deux choses. Une certaine, l'autre potentielle. La chose certaine que ça te démontre, c'est que la parole des Nord-Coréens, si on le disait avant, pendant, après le sommet, On peut pas nécessairement la croire. Et la deuxième chose potentielle, il faut faire attention, mais tu as beaucoup de gens aux États-Unis, notamment un sénateur républicain qui est sorti sur la place publique hier pour alléguer ça, qu'en fait, c'est la Chine qui est derrière ça. Et que quand tu regardes les vives tensions commerciales qu'il y a présentement entre les États-Unis et la Chine, que ça pourrait être une façon pour la Chine d'aller justement répliquer aux États-Unis, de servir de son espèce de pantin en Corée du Nord en disant, écoutez les Américains, si vous voulez nous causer des problèmes au niveau commercial avec vos tarifs, nous, il n'y a pas seulement des tarifs qu'on peut utiliser pour répliquer, on a aussi toute la dynamique nord-coréenne qui peut vous donner du fil à retordre. Donc, il y a ça aussi à garder en tête dans ce dossier-là.
Raphaël Jacob, merci. On se retrouve demain.
À demain, Mathieu.
Salut, il est 8h18. Autoroute des Laurentides, Linda.